La Fontanelle.
Fragments sensibles et politiques.
Radio Fontanelle, Montreuil, le 27 mars 2019 à la Maison de l'Arbre. Marie L'Enfant, suite de l'entretien cette fois-ci avec Nicolas Roméas.
Puisque je suppose que la manière dont on connaît les gens fait partie de la connaissance qu'on a d'eux, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de rencontrer les gens, fortuites, hasardeuses, mystérieuses, avec des successions de hasards comme ça, ou des choses qui font qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas faire connaissance avec quelqu'un. C'est ce qui s'est passé entre nous et on était amis sur une chose qui, dans les années 2019, était très utilisée pour communiquer. Qu'on appelle un réseau social, je trouve que c'est un peu abusif d'ailleurs d'appeler ça comme ça. Et moi je voyais ce que vous faisiez et ça m'intéressait à chaque fois et je ne comprenais pas exactement de quoi il s'agissait parce que ce que je voyais c'était que les thématiques, les chemins ressemblaient beaucoup aux thématiques et aux chemins que nous empruntons, mais je comprenais assez mal comment une troupe de danse, des chorégraphes et des danseurs pouvaient travailler sur ces matières-là. Je connais très peu la danse et on dit toujours qu'il y a des codes de la danse. Alors c'est comme s'il y avait un truc mystérieux qu'il fallait apprendre pour pouvoir entrer dans cet univers. Bon, et puis un jour, avec Zaza Mercury, on a pris sa voiture et on a foncé vers le Mans et on est arrivé un petit peu en retard. On est tombé au milieu d'une sorte de performance dont encore aujourd'hui j'aurais peine à dire, mais en même temps je ne suis pas un connaisseur de la matière, donc c'est normal que je ne puisse pas le dire, si c'est de la danse ou pas. Où il était question de choses éminemment politiques, qui ont plus à voir pour moi avec le rôle du lanceur d'alerte. Donc c'est ce que Valérie de Saint-Dos dans Cassandre appelait l'artiste ou l'art lanceur d'alerte. Je trouve que c'est pas mal, c'est peut-être une des fonctions essentielles de l'art en fait. Et je ne comprenais pas en quoi c'était de la danse. On est tombé au milieu de cette marmite en train de bouillonner, en train de frémir. Il y avait des scènes un peu surréalistes, un peu de science-fiction, des choses qui donnaient à voir l'absurde de ce qu'on vit aujourd'hui sous des formes qui mettaient bien en valeur le côté, je sais pas si science-fiction c'est le mot, mais en tout cas, avec des symboles. Et je me suis dit, peut-être qu'une équipe de plasticiens, ou une équipe de gens de théâtre, ou une équipe de gens qui sont dans la poésie, pourrait très bien faire un travail de ce type, en s'emparant, à côté de leur axe central, d'images, de sons, de mouvements du corps, de musique, etc. Et donc, les catégories telles qu'elles sont établies avec leur cadre sont dynamitées. Donc, ça m'a quand même un peu surpris parce que je m'attendais à voir ce qu'on appelle de la danse.
Oui, pour moi, c'est la question du corps aujourd'hui. C'est quoi la place du corps dans le monde ? Aujourd'hui, les corps qui s'immobilisent, justement, qui produisent, qui détruisent. Et je ne me suis pas posé la question d'un mouvement, justement, au sens de la chorégraphie, avec des jolis gestes. Moi, le monde, il ne me donne pas envie de faire de la poésie aujourd'hui. J'ai envie de renvoyer ce côté brutal et violent du monde, justement pour faire réagir. Et l'idée de mettre aussi les gens dans le public, c'était ça, c'est qu'ils vivent de plein fouet dans quelque chose finalement d'artificiel, quelque chose qui reste peut-être abstrait pour beaucoup, mais qui a à voir justement avec le réel. Comment les deux choses se mélangent aujourd'hui, l'idée du virtuel et de la réalité. Je trouve que c'est ça qui m'a, enfin en tout cas c'est ça qui m'intéressait. Je me suis pas posé la question de savoir ce que j'allais fabriquer comme chorégraphie pour correspondre à justement à ce que l'institution cherche et attend. Voilà, ça c'est du fromage, on met une étiquette dessus parce que on est, voilà, je m'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est finalement c'est le débordement. La question, c'est pas la question de ma carrière, mais c'est la question du rôle justement que les équipes artistiques peuvent jouer aujourd'hui en se débarrassant de l'aspect marchand ou carriériste. C'est comment on peut agir modestement. Mais comment l'art aujourd'hui doit retrouver ce rôle premier de renvoyer au monde sa propre image, en tout cas une image possible de sa réalité. Sinon ça sert à rien, sinon on est dans le divertissement, on est dans l'animation, et ça c'est des choses, des mots et des positions qui me dérangent beaucoup aujourd'hui. Je pense que si on reprend le film Pinocchio, où on dit aux gens « Entrez au parc d'attractions, divertissez-vous », et résultat des courses, tout le monde ressort et se transforme en âne. Et pour moi, le monde aujourd'hui, c'est vraiment ce passage de Pinocchio. Donc j'ai envie de faire réagir. Je ne fais pas des pièces pour les vendre. Je fais des pièces pour... chercher une réaction possible chez celui qui ou celle qui va regarder.
Mais on en parlait hier, la danse en Occident a une histoire, et comme d'autres pratiques de ce qu'on appelle aujourd'hui les arts vivants, cette histoire a un aspect populaire, un aspect de transformation permanente, comme pour la musique, de relais, d'oralité, au sens où les choses sont légèrement transformées par les différentes personnes qui s'en emparent au moment précis où elles le font.
Oui.
Même s'il y a quelque chose qui serait comme le squelette, c'est à chaque fois c'est une appropriation de la chose qui fait qu'elle peut évoluer.
Oui.
Et donc je dis ça parce que je pense que c'est sans doute le même phénomène dans d'autres pratiques, avec peut-être une différence, c'est que la musique s'enregistre maintenant et qu'on en arrive même à ce stade ultime de l'absurde où on peut demander à des algorithmes de composer,
oui,
des choses,
oui,
comme ça. On pourrait presque faire la même chose avec du texte écrit. Et en amont de ça, pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement vivant. Toute cette histoire est extrêmement vivante avant ça. Et on ne sait pas comment le retrouver, comment se raccrocher à ce qui est essentiel dans la relation, la transformation, le fait que, je suppose, à une période, la période des troubadours, par exemple, en Occitanie notamment, les musiques évoluaient d'un lieu à l'autre, d'un musicien à l'autre, etc. Ou comment, à d'autres époques, en Grèce ou en Albanie, les rhapsodes ou aèdes transformaient les textes, même si c'était des textes mythiques, à chaque fois ça devenait quelque chose d'un peu particulier. Les conteurs connaissent bien cette histoire.
Oui.
L'édition, l'impression, l'imprimerie a transformé ça, y compris dans le théâtre, qui est presque devenu d'ailleurs un genre littéraire. Il y a des personnes qui pensent que le théâtre est devenu un genre littéraire, ce que moi je trouve totalement antinomique de ce qu'est le théâtre, ne serait-ce que parce que le mot théâtre, qui est un mot grec qui signifie ce que l'on voit, ne se réfère pas à ce qui est écrit et à des mots précis. Il se réfère à quelque chose qui est donné à voir et à partager. Et la danse, peut-être, conserve quelque chose de sauvage, disons, entre guillemets, qui fait que, en fait, elle ne peut jamais être reproduite
à l'identique, oui. Non, ça c'est quelque chose d'impossible. Pour moi, en tout cas, je ne peux pas le vivre. Il y a des gens qui travaillent de cette manière-là, c'est au, vraiment au millimètre près, etc. Moi, ça me dérange, parce que là, je ne suis plus dans l'art vivant. Je suis dans quelque chose de figé et qui va simplement être reproduit. Et la reproduction m'ennuie beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Alors, si je suis logique avec ce que je disais juste avant, ce que j'entends, c'est que peut-être la danse serait un chemin pour réintroduire quelque chose qui serait de l'ordre de ce qu'on appelle le théâtre, ou de ce qu'on a, ou de la musique, etc. Enfin, et des arts plastiques aussi, puisque ça fait quand même un moment que des plasticiens ont eu envie de montrer des choses qui ne soient pas seulement des tableaux. Il suffit de penser à Tadeusz Kantor, le génial polonais. Et peut-être que malgré tout ça, on continue à parler du théâtre, avec les règles du théâtre, etc. Les spectateurs sont les spectateurs, les acteurs sont les acteurs, chacun son rôle, etc.
Oui.
Et c'est un peu comme si, là je dis ça naïvement, mais c'est un peu pour moi comme si la danse, parce que moi ça peut m'arriver de danser si, si l'occasion s'y prête et que la musique m'y entraîne et que j'adore ça. Donc la danse serait-elle une de ces pratiques qui conserverait cette possibilité de liberté qui lui permettrait de récupérer tous les autres arts, tous les autres arts qui sont emprisonnés, pour les libérer en fait. C'était ça un peu mon idée.
Ouais. En tout cas, pour moi, la danse est une remise en mouvement. Et par exemple, à travers la dernière pièce que tu as vue, c'est chercher dans la déstabilisation de l'autre justement cette remise en mouvement. De plus, on arrive beaucoup justement dans les salles de spectacle et on nous dit on va voir du théâtre, on va voir de la danse, on va voir telle chose identifiée comme on va au supermarché acheter un produit. Et dès qu'on sort en fait de la représentation qu'on s'était fait de ce qu'on va voir, on est complètement paumé. Et ben moi c'est justement cet endroit-là qui m'intéresse. C'est l'endroit où tu es paumé et tu sais plus à quoi t'as affaire, parce que là, tu remets en mouvement la pensée et même ton positionnement physique dans la performance. Là, le fait de vouloir mettre les gens au milieu, c'était aussi les mettre dans un inconfort et qu'ils soient amenés à faire des choix. Est-ce que j'ai le droit ? Combien de fois j'ai entendu ça ? J'avais envie, mais je ne savais pas si j'avais le droit de bouger. On en est là. Et justement, la danse, elle peut effectivement, parce que peut-être elle a quelque chose de plus abstrait. Le théâtre fait appel aux mots, donc on sent, on peut s'appuyer sur les mots. Là, on est, par rapport au mouvement, on est sensible. Bah, sensible, ça nous raconte quelque chose ou pas. On est déjà un peu déstabilisé par rapport à ce mouvement. Donc peut-être qu'effectivement, la danse, si elle ne se laisse pas enfermer par des volontés politiques, institutionnelles, peut-être qu'elle peut effectivement nous amener à retrouver ce corps qui est très très mal mené aujourd'hui.
Sortir de la perfection, être poreuse, permettre à ce public ce soir-là particulier de transformer ce qui est en train de se passer ce soir-là en particulier,
oui.
Que ce soit pas à chaque fois la même chose. Dans le contexte qu'on vit, les uns et les autres, il faut quand même qu'on soit prévenu parce que on n'est pas en Afrique,
oui.
Ou dans d'autres pays où la réponse est toujours attendue et où ce qui est posé n'est jamais fermé. Nous, on a pris cette habitude, donc on est conditionné par ça.
Oui.
Comment est-ce que vous faites pour que le public, ce qu'on appelle le public, c'est-à-dire nous, les personnes humaines qui oui. se retrouvent là, puissent savoir que c'est possible?
Mais je pense que c'est une question de confiance. Moi, j'ai confiance. Je pense que les gens sont tous capable de penser sans que j'aie à leur dire ceci et cela. Après, c'est une question de rencontre avec les gens qui peut être possible après, dans des discussions informelles, voilà, d'échanger sur nos sensations et aussi quitter cette idée de gravité dans laquelle on est baigné chaque jour. Chaque chose est grave. Mais en fait, il n'y a rien de grave. On fait des expériences et c'est ça qui nous enrichit. C'est pas le fait de savoir si c'est ceci ou cela, c'est qu'est-ce que ça m'a fait, ça m'a déstabilisé, ça m'a dérangé, ça m'a interrogé, ça m'a plu. C'est ça qui est important. Mais tout d'un coup, même aller au spectacle et être déstabilisé, ça devient grave parce que c'est relié au prix de l'entrée, à la durée, à la convention. Et c'est ça aussi que la danse remet en route. C'est toutes ces conventions sociales où on nous dit, dès le plus jeune âge, attention, on va chez mamie, alors tu te tiens bien à table, quand tu es en face de ton professeur, tu poses bien les mains sur ta table et tu le regardes pour lui faire comprendre que tu t'intéresses à son discours. Donc le corps, il est déjà très tôt, en fait, formaté, préparé à cette société où le corps ne doit pas déborder. Dès qu'on voit quelqu'un chanter, bouger un peu dans la rue, et il y a des gens que ça dérange fortement parce que l'autre, il s'autorise une liberté qu'on ne s'accorde même plus à soi-même.
Mais justement, c'est quelque chose de civilisationnel, c'est-à-dire que c'est dans les corps, c'est pas seulement une pensée, c'est juste qu'on ne peut pas. Je me souviens, moi, d'avoir conseillé à mon ami Gabriel Garand, qui faisait un festival dans lequel il y avait des troupes africaines. J'étais, moi, en voyage au Burkina et au Mali, et il me dit, si tu trouves des choses intéressantes, alors je lui conseille une pièce dans laquelle j'avais été, qui m'avait complètement bouleversé. Je veux dire qu'on m'avait entraîné à l'intérieur et que je le vivais pas du tout comme un spectacle, mais comme quelque chose de partagé, comme une sorte de fête symbolique très, très forte qui racontait vraiment quelque chose, mais dans laquelle j'étais. Je lui ai conseillé de le programmer, il l'a programmé et on s'est retrouvé avec exactement la même troupe, exactement la même pièce. Assis dans des fauteuils rouges, à distance très respectueuse et respectable de la scène, en contrebas de la scène, avec quelqu'un qui nous a expliqué qu'on allait assister à un spectacle malien qui a à voir avec la tradition de la marionnette Bambara, etc. Et c'était fini. Toute la vie avait disparu. Donc on est dans une société qui, dans ces lieux aussi, enfin dans les corps, mais aussi dans les lieux, fait que cette porosité, même si elle est voulue parfois, ne trouve pas de possibilité de s'exprimer, ou alors ça devient une transgression.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va monter sur scène, qui est un endroit sacré, parce que je pense que c'est un mot très très central dans toutes ces conversations, si on arrive à le sortir de la religion.
Oui, c'est ça. Ouais.
Si on arrive à retrouver ce qui, dans l'aspect sacré, est très simple en fait, c'est tenir une certaine distance vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas de l'ordre du flux quotidien de la vie, mais c'est ce qui nous arrive quand on lit un livre, c'est ce qui nous arrive quand on regarde un tableau, c'est ce qui nous arrive quand on est amoureux. On n'est pas dans le flux quotidien de la vie, on est ailleurs. Mais ça n'est pas fermé pour autant. Ce sacré transformé en interdit, comment est-ce que vous arrivez à le contourner? Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les gens ont l'habitude de n'être que des spectateurs? Les artistes ont l'habitude de faire leur métier d'artiste. On a parlé de la professionnalisation. Donc chacun est de son côté, chacun reste à sa place. Et qu'est-ce qui peut transformer ce sacré, c'est-à-dire cette séparation, en une séparation, mais qui n'est pas définitive, qui n'est pas interdite? Mon image, c'est que la porte existe, mais qu'elle soit entrouverte.
Oui.
Qu'est-ce qui peut faire ça vraiment? Parce que sinon, on est dans l'utopie, on dit, oui, ce serait chouette, les gens peuvent le faire, ils peuvent le faire, mais pourquoi ils ne le font pas, en fait?
Moi, je crois que, en fait, je me pose absolument pas toutes ces questions-là quand je montre quelque chose. Il y a quelque chose du monde qui m'interpelle, qui me pose question, donc je pose mon regard à cet endroit-là. Ensuite, il y a je propose cette question-là centrale à toute l'équipe. Et puis, toutes les idées se mettent en mouvement. Et parfois, on s'égare, on s'éloigne, et finalement, on se rend compte qu'on ne s'est pas éloigné tant que ça. On sait aussi, dès le départ, que ce travail-là, il va exister pleinement dans la rencontre avec l'autre, avec les autres, avec les gens. Et donc, du coup, on les intègre quelque part, mais consciemment et inconsciemment. Mais on ne se pose pas la question... Enfin, toutes ces questions-là au départ. Et je pense qu'avec la multitude de regards d'une équipe, du coup, on intègre aussi différents questionnements dans lesquels, justement, les gens qui vont être témoins de ce moment-là vont pouvoir effectivement se retrouver. Si je suis la seule à décider, à imposer une forme, une manière de chercher... Là, finalement, je vais exclure tout un tas de gens. Mais si j'intègre tous les imaginaires de tous ces gens, et puis aussi, sans doute, choisir le bon endroit de ce temps de présentation. Il y a des pièces, on s'est rendu compte que l'endroit où on fabrique ne doit pas être oublié au moment de la représentation. Je ne sais plus, dans les années 2009, j'avais monté une pièce et on n'avait pas trouvé de lieu de résidence. Donc on avait travaillé au studio. Et puis on arrive sur le premier lieu de la représentation et là on se retrouve sur un plateau immense avec un public à distance. Et là la pièce fait un flop total. Et en fait c'était juste ce rapport de proximité. On a repris la pièce ensuite dans des lieux... Qui ressemblait un peu à la taille du studio, et on s'est rendu compte que là, ça fonctionnait. Donc il faut considérer, s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment considérer, c'est l'endroit où on fabrique et là où ça va être transposé.
C'était Marie L'Enfant pour un entretien de La Fontanelle.